Ouais, Seigneur, il y a des situations de vie qui sont compliquées, complexes, dramatiques. Et toi, tu les connais. Tu es allé jusqu'à la croix pour nous. Tu es allé jusqu'au bout pour nous sauver. Et tu es un Dieu qui comprend, qui compatit et qui veut restaurer aussi. Et quand il n'y a plus de restauration possible, tu mets aussi des gens comme Pedro pour accompagner ces personnes-là. Et je veux vraiment te demander d'aider Pedro à avoir les mots justes, à avoir les attitudes justes, à ressentir aussi ce que ton esprit veut lui dire et veut l'aider à communiquer dans ces situations-là, que tu sois au contrôle de tout. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écouter un message le dimanche matin? Apparemment oui. D'écouter l'analyse du texte et les exhortations liées à un passage biblique et d'attendre avec impatience d'entendre les commentaires liés au verset, ce verset-là qui vous a particulièrement frappé à la lecture. Et puis, plus rien. Plus rien parce qu'en fait, ce verset n'est pas commenté par le prédicateur, la prédicatrice du jour. Grosse frustration. Parce que si le reste, évidemment, vous parlez aussi bien, eh bien, il vous a manqué quelque chose. Bon, peut-être c'était voulu du prédicateur parce que, évidemment, on ne peut pas tout commenter dans un passage et il faut faire des choix. Et j'en fais moi-même aussi régulièrement. Bref, ça m'est arrivé il y a quelques semaines en arrière. Peut-être vous vous souvenez que François a pris une série de messages sur 1 Thessalonicien. Série de messages qui était d'ailleurs très nourrissante, j'ai trouvé. Alors j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui du pourquoi de cette impasse, mais en tout cas ça m'a donné l'occasion de méditer ce passage et d'en faire un sujet pour aujourd'hui. Donc tout est bien qui finit bien, ou plutôt qui commence bien. Le passage en question, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 11 et 12. Ces deux petits versets, coincés entre deux sujets sérieux que François avait abordés, à savoir d'une part les questions de morale sexuelle, et d'autre part la résurrection des morts et le retour de Jésus. On va lire ces versets. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendants de personne. Et encore une version dans Parole de vie. Cherchez à vivre en paix, occupez-vous de vos affaires, travaillez de vos mains, comme nous vous l'avons demandé. Alors ceux qui ne sont pas chrétiens respecteront votre façon de vivre. De plus, vous ne dépendrez pas des autres. Voilà notre texte pour aujourd'hui. Paul aborde ici la question du travail et de la vie quotidienne comme un témoignage vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est vrai que dans nos mentalités d'église, il y a parfois une idée qui a la vie dure, c'est que le spirituel serait supérieur au quotidien. Alors on oppose parfois foi et travail, on les hiérarchise, ou sinon on se demande si notre travail pratico-pratique de la vie de tous les jours sert Dieu autant que si on était dans le ministère. Je prends tous les guillemets possibles dans le ministère. Et alors, dans notre contexte d'aujourd'hui à Thessalonique, il y avait une tendance dans l'Église, c'est que plusieurs pensaient que Jésus allait revenir de façon imminente, genre la semaine prochaine. Donc, ils mettaient tout en stand-by, tout le reste, et notamment leur travail. Donc, ils avaient complètement arrêté de travailler et ils vivaient finalement au crochet de la communauté et des autres membres qui, eux, avaient continué leurs activités. Alors, ça avait conduit à certaines dissensions, voire à un certain désordre social au niveau de l'Église, mais aussi au niveau plus large. Et ça avait en tout cas contribué à un mauvais témoignage de l'Église vis-à-vis de la société qui l'environnait. Et le problème devait être assez grave, parce que Paul y revient dans sa seconde lettre à l'Église, dans le chapitre 3. On va le lire un peu plus tard. Dans ces deux courts versets, Paul va recentrer l'Église sur une foi plus incarnée, plus pratique, mettant en avant finalement l'idée que Dieu n'appelle pas seulement à croire juste, mais à vivre juste chaque jour. Et le premier point que je voudrais aborder, c'est cette ambition surprenante, et c'est la première partie du verset 11, cet appel à vivre paisiblement, chercher à vivre en paix. Le mot grec qui est utilisé, il retranscrit l'idée d'ambitionner ardemment cette recherche de la paix. En fait, c'est presque paradoxal parce que Paul utilise un mot qui évoque cette ambition forte, presque une compétition, pour encourager à une vie calme, une vie paisible. Et donc la paix devient un objectif spirituel actif. Paul encourage ses auditeurs ou ses lecteurs à cultiver non pas une foi bruyante, à faire son autopromotion, mais avoir une foi stable qui fait de nous des faiseurs de paix. En anglais, ça donne mieux, faiseurs de paix, c'est peacemakers, pas pacemakers. Donc cette paix, elle est vécue d'abord dans notre cœur, mais elle s'exerce évidemment en lien avec les autres. Alors c'est relativement facile d'avoir la paix en soi, quoique ça dépend ce qu'on écoute, mais ça devient en tout cas plus complexe dès qu'il y a des relations. Et comme je pense que la plupart d'entre nous ne vivons pas en ermite, ça peut nous parler. Ça rappelle deux autres versets qui parlent de la paix vis-à-vis de l'extérieur. Un verset en Romains 12, 18, qui Paul dit la chose suivante: « Si c'est possible, dans la mesure où ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et Jésus dans Matthieu 5, 9, qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. » Comme Pedro nous l'a rappelé ce matin. J'entendais encore récemment quelqu'un qui me parlait de ses relations de voisinage. Qui est-ce qu'il y a des voisins? Voilà, quasiment tout le monde. Moi, j'ai presque plus de voisins. Ou alors, je choisis d'aller voir mes voisins quand j'ai envie d'aller les voir. C'est magnifique. Je vous encourage. Bref, la plupart d'entre nous avons des relations de voisinage plus ou moins proches. Croyez-moi, ça peut aller loin, les relations de voisinage. Hein ? Tout ceci, ce que je vais citer, est inspiré de faits réels. Les gens se renseignent en mairie si les déclarations de construction ont été faites dans les règles de l'art. Certaines personnes envoient des lettres recommandées à leurs voisins, voire à la mairie, pour une question de « est trop touffu ou trop haute ». Certains même mettent en place des caméras achetées sur AliExpress, qui sont pas chères, mais qui filment bien devant chez eux, et ils se font accuser de surveillance du quartier par les autres. Bref, tout ça, ça existe. J'espère que vous n'oubliez pas ça. Comment procurer la paix dans de telles relations ? Alors c'est un exemple, mais la paix, elle se cultive aussi au sein de la famille, d'abord. Et on peut imaginer que dans cette église de Thessalonique, il y avait probablement des familles. Et peut-être certains abusaient de ces relations familiales pour dépendre des autres. Cette paix, elle peut se vivre au travail aussi. Comment est-ce qu'on peut refuser des conflits inutiles ? Comment cultiver une présence apaisante ? Comment témoigner sans agitation ? Que Dieu puisse nous donner de la sagesse dans nos relations. En tout cas, ceux qui procurent la paix sont appelés fils et filles de Dieu. Ça, c'est un beau titre. Ça me montre aussi que ce n'est pas si simple. Et donc, si la paix commence dans nos propres cœurs, elle se vit dans nos relations. Et ça me mène à mon deuxième point, qui est la suite du verset 11, où Paul va mettre en avant une responsabilité personnelle de s'occuper de ses affaires. Il dit « Occupez-vous de vos propres affaires ». Littéralement, c'est faire ses propres choses. Alors allons voir dans cette deuxième épître aux Thessaloniciens ce qui se passait exactement dans la communauté. C'est de Thessaloniciens 3 à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi vous et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça, c'est la bonne chose. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée, ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. On ne sait pas, enfin en tout cas moi je ne sais pas à quel temps d'écart ces deux lettres ont été écrites, mais vous voyez que la sémantique, les mêmes termes reviennent d'une lettre à l'autre. Et donc Paul nous appelle à plusieurs choses lorsqu'il parle de s'occuper de ses propres affaires. D'abord, il appelle à se concentrer sur ses responsabilités, et ça induit évidemment une certaine discipline. Comme on l'a lu, Paul est assez clair sur la responsabilité personnelle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bon, ça ne peut pas être un programme pour les élections, parce que c'est une grosse partie de l'électorat. Mais voilà le premier point. Et ensuite, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça se combine avec cette question d'éviter l'ingérence. Probablement que certaines personnes au sein de la communauté, puisqu'elles ne travaillaient plus, avaient finalement trop de temps disponible après leurs 6 heures de prière et de lecture de la Bible et se mêlaient de choses qui ne les regardaient pas. Et il s'agit peut-être aussi de pouvoir établir les limites saines. Si vous étiez là quand Jean-Paul a apporté son message l'autre jour sur demander et recevoir, il a très bien mis ça en avant de voilà, se sentir libre de demander, mais aussi se sentir libre de dire non. Ben, c'est un peu la même idée, c'est d'avoir ces attitudes, de poser des limites qui soient saines. Ça ne veut pas dire non à tout et être égoïste. Mais au final, l'idée dans la communauté, c'est de refuser ce désordre social qui peut être rapidement la réalité des choses quand il y a ce genre d'attitude. Si on revient à notre passage du jour, cette foi ordonnée, dans la suite du verset, va conduire naturellement à une vie productive. Alors on va voir que l'idée n'est pas une vie productiviste ou capitaliste, mais une production qui induit la responsabilité individuelle, la solidarité et le témoignage dans la société. Et Paul va lier cela à, quelque part, une dignité retrouvée, c'est mon troisième point, avec cette expression « travailler de vos mains ». Le terme grec qui est utilisé ici, je vais le donner pour Christelle, hein, « ergazestai », excusez ma prononciation, ça induit trois choses, travailler avec effort, produire et s'engager activement. C'est un mot courant qui est utilisé, mais qui se réfère à une certaine discipline et une persévérance dans l'effort. Alors, si vous connaissez un peu le monde gréco-romain, il faut savoir que le travail manuel était bien souvent méprisé, dévalorisé. Bon, il n'y a pas que dans le monde gréco-romain. En France, il n'y a pas si longtemps, c'était encore le cas. C'est peut-être encore le cas. Alors, Paul, au contraire, va valoriser ce travail comme honorable devant Dieu. On sait que Paul était fabricant de tentes, dans Actes 18.3, ça nous rappelle ça. Et ce qu'il met en avant dans ce passage de Thessaloniciens, son attitude pour gagner son propre pain est un exemple à imiter. Alors sans, parce que c'est tout un autre sujet, mais sans entrer dans toute la théologie biblique du travail, je voudrais juste insister sur trois aspects qu'on retrouve notamment dans les psaumes et les proverbes. La première chose, c'est que le travail sans Dieu est vain, sert à rien. Psaume 127, versets 1 et 2, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bon, voilà, on pourrait aussi parler du repos. Aujourd'hui, je choisis de parler du travail, mais évidemment, ça ne signifie pas de se tuer à la tâche non plus, et de prendre des temps de repos. Je dis ça pour moi. Le deuxième élément, c'est que le travail nourrit. Et nourrit presque au sens littéral du terme. Alors, on n'est plus dans des sociétés très agricoles, ce qui pose d'autres questions. Mais voilà, si on prend par exemple Proverbe 12, 11, celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens. Et les proverbes comme ça qui sont bien. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens. Moi, je pense aux gens de Thessalonique qui poursuivaient des réalités sans valeur sous couvert d'être ultra spirituels. Et l'autre élément, parce qu'il y a travaillé et travaillé, c'est que Dieu appelle à l'excellence dans le travail. Peut-être vous le savez, je suis en train de rénover une maison, je suis sur un chantier et je travaille beaucoup avec mes fils. Et ils apprennent beaucoup de choses, j'essaie de leur transmettre des choses aussi. Ils sont pas là. Ça arrive que mon fils me dise « Mais pourquoi tu fais ça? On pourrait faire ça plus rapidement en faisant ça. » Au lieu de vraiment complètement démonter les choses et refaire propre. Voilà, l'objectif, il serait le même. Sauf que ça serait mal fait. Tout ça pour dire que Dieu appelle à l'excellence dans le travail. Et je prends encore un proverbe à ce niveau-là. Proverbe 22-29. Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Intéressant. On avait dans notre église le meilleur ouvrier de France. Il y a des gens qui ont de l'or dans les doigts, mais en tout cas, on est appelé à faire de notre mieux et à exceller comme notre Dieu créateur excelle. Alors évidemment, si Paul insiste sur cette responsabilité individuelle, elle ne doit pas conduire à des comportements égoïstes. Mais il dit ça à des comportements de solidarité. Et c'est ce qu'il met en avant dans une autre épître qu'il a écrite aux Éphésiens cette fois, Éphésiens 4, 28, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça signifie aussi que Dieu voit plutôt nos capacités que nos incompétences, et que finalement chacun, chacune a des ressources qui peuvent être utiles dans la communauté, la société qui l'entoure. Et ça, je pense que c'est important de le reconnaître, c'est aussi que personne n'est inutile, finalement. Vous savez, on est dans des temps où on va bientôt tous se croire inutiles grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, en tout cas ce qu'on est en train de nous vendre. Donc j'utilise plus, quasiment plus. Pour éviter qu'elle me remplace. Mais notre société productiviste veut toujours nous faire aller plus vite et veut nous faire croire que une certaine partie des gens sont finalement inutiles parce qu'ils peuvent être remplacés. Ben c'est faux, d'après la perspective biblique des choses et d'après la théologie du travail, c'est que chacun a sa place et que, à l'image du Créateur, nous sommes créatifs. Et parfois, dans nos vies, cette créativité, elle n'a pas été complètement libérée. Alors je reviens quelques instants sur la question de produire avec ses propres mains. Ça pose aussi des questions sociologiques, voire physiologique aussi peut-être, sur la répartition du travail actuellement dans notre monde, et notamment au fait que nos pays occidentaux ont délégué à d'autres pays, notamment asiatiques, leur capacité de production. Alors qu'on parle de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, la capacité à faire soi-même, que ce soit au niveau d'un pays ou au niveau personnel, n'est jamais une mauvaise idée. Et la question suivante, pour moi en tout cas, c'est de savoir si notre système éducatif, il est capable d'éduquer comme le faisaient les Juifs, c'est-à-dire avec des capacités intellectuelles, mais aussi des capacités pratico-pratiques. Hein, pour rappel, Jésus le rabbin, Jésus le sauveur du monde, était charpentier. Paul fabriquait des tentes. On pourrait allonger la liste. En cas de crise, c'est pas forcément l'intelligence artificielle qui va nous sauver, probablement pas, mais aussi peut-être des compétences plus pratiques. C'est pas forcément la capacité de production d'armes, mais peut-être la capacité de se nourrir soi-même sainement. Bon, je ferme le chapitre géopolitique pour poursuivre. On va voir que le travail n'est pas seulement personnel. Il a une portée missionnaire, un aspect de témoignage dans la société. Et c'est la première partie du verset 12. Hein, « Votre conduite sera honorable ». On est appelé à apporter ce témoignage visible. L'idée, c'est que notre foi chrétienne soit visible dans la vie quotidienne, pas seulement dans le culte. Finalement, le quotidien parle plus fort que les discours religieux. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, on est aussi appelé à être une Église ouverte vers l'extérieur. Et Paul, dans ce passage, pense également à la réputation publique de l'Église. L'idée de Paul derrière cette réputation, c'est évidemment la gloire de Dieu, accroître sa renommée. Ça me rappelle deux versets, Matthieu 5, 16, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et 1 Pierre 2.12 « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Et donc nous sommes appelés à être une Église crédible dans la société et à avoir une cohérence entre notre foi et notre vie de tous les jours. Mon cinquième point, c'est ce verset 12, la deuxième partie du verset 12, vous ne serez dépendant de personne. Une liberté saine ne dépend de personne. Je vous avoue que c'est la partie du verset qui résonne le plus en moi actuellement. Vous savez, ce genre de verset que vous avez lu 100 fois et tout à coup, c'est comme si la parole s'adressait directement à vous. C'est probablement parce que je réfléchis beaucoup aux questions de dépendance, d'autonomie, de notre système actuel en fin de course, comme mon point de vue, des potentielles crises vers lesquelles nous allons gaiement. Alors l'idée, c'est pas de faire peur, évidemment. L'idée n'est pas de produire des idées anxiogènes, mais plutôt d'anticiper et d'être plus résilient. Mais si vous analysez un peu le monde autour de nous, soit on peut choisir de se voiler la face, et croire que le système actuel va perdurer, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, comme disait quelqu'un. Soit on peut agir au niveau individuel et au niveau communautaire pour anticiper. Et je pense que les versets qu'on vient de lire, tout comme finalement la théologie biblique du travail, nous incitent à l'action et non pas à l'oisiveté. Un autre point qui me semble crucial de mettre en avant, c'est que Dieu tient nos vies dans ses mains, quelles que soient les circonstances, géopolitique, communautaire ou personnel. Et il nous appelle à être pleinement dépendant de lui et à ne pas croire qu'on peut se sauver soi-même. Ça serait clairement une façon de se fourvoyer aussi. Alors qu'est-ce que veut dire Paul sur cette question d'indépendance? Le sens du terme grec, c'est de ne pas être un fardeau, de ne pas vivre aux dépens d'autrui. Donc c'est clairement contre l'assistanat choisi, contre l'oisiveté. On a déjà dit que Paul, évidemment, il n'est pas contre la solidarité avec les plus faibles d'une communauté, bien heureusement. Mais l'aide mutuelle ne doit pas conduire à l'oisiveté volontaire comme c'était le cas parmi plusieurs églises de Thessalonique. Et donc Paul insiste sur cette autonomie responsable qui s'oppose à une dépendance irresponsable quelque part. Et cette injonction individuelle à l'autonomie, elle peut aussi se réfléchir au niveau de la communauté. Comment gagner, par exemple, en indépendance de ses membres vis-à-vis de la société extérieure tout en restant un témoignage concret dans celle-ci? Comment, grâce à l'autonomie de ses membres, être une communauté plus résiliente, dans laquelle la solidarité mutuelle peut rimer avec le partage des compétences? L'Église pourrait être un tel laboratoire, peut-être. Elle aurait alors un témoignage pertinent et encore plus incarné dans la société qui l'entoure. Bon, voilà peut-être une réflexion pour une autre fois. Je m'arrête là. En conclusion, j'aimerais rappeler ces quatre éléments clés pour moi qui sont reflétés dans ce court passage. Le premier, c'est que la maturité chrétienne, elle se manifeste dans la vie ordinaire. La deuxième, c'est que la paix, c'est une ambition spirituelle qui est active, pas passive. La troisième, c'est que le travail honnête fait partie du témoignage chrétien. La quatrième, c'est qu'une église crédible, elle est autonome, elle est paisible, elle est respectée. Et donc finalement, à travers ce texte, Paul nous appelle à redonner du sens à notre travail, à vivre une foi incarnée, concrète, et à attendre Christ sans fuir la terre, ce qui pourrait être une tentation. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à ne pas être en dehors de la société, mais à être pleinement acteur et actif dans la société. Tu nous appelles aussi à rejeter peut-être ces poids que la société veut nous imposer, ces carcans. Tu nous appelles en tout cas à de la solidarité les uns avec les autres, qui sera un témoignage vis-à-vis de l'extérieur. Puisses-tu nous inspirer, jour après jour, nous dire là où il faut mettre nos efforts, sans crainte de l'avenir, mais en pleine confiance et en pleine solidarité les uns avec les autres. Amen.